dans l'ordre de lettres. Et bon, ça c'est trop clair. Donc vous avez, si vous avez suivi les petites sessions de Bois-le-Roi, vous avez vu qu'il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Donc zone 1, elle est à la périphérie, ici. Il y a des gens qui vivent complètement, on appelle ça les extravertis, n'est-ce pas? Bon, il y a ceux qui vivent en zone 2, n'est-ce pas? Donc ce sont des gens qui sont quand même relativement bien dans leur peau, mais qui vivent au niveau somatiquement, ça colle à peu près, tu vois. Hein, tous les gens qu'on a vus dans la gorge du Verdon hier, bon, enfin, peut-être qu'ils n'étaient pas tous somatiquement bien dans leur peau, mais enfin, on n'en sait rien. Mais enfin, on suppose. Il y a des gens qui ont quand même une vie intérieure, l'âme. Et donc, psychologiquement, il y a une certaine harmonie. Et enfin, il y a des gens qui, enfin, sont en zone 4, c'est-à-dire qu'ils ont, ce sont des personnes humaines. Quelqu'un qui vit au niveau extraverti, extérieur, zone 1, bien dans leur peau, zone 2, ou psychologiquement à peu près une certaine harmonie et équilibre, ce ne sont pas des personnes humaines. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, mais ce ne sont pas des personnes. Une personne implique qu'on soit construit. La personne, c'est une acquisition progressive ce qui fait qu'on est un être humain par rapport à l'animal, par exemple, parce que l'animal, il peut lui aussi être très extraverti, la vache qui regarde passer un train, tu vois. Bon, et il peut être bien dans sa peau, tu vois, bon, très bien, la tourterelle qui roucoule, bon, et puis il peut avoir également une vie intérieure, le chien qui est fidèle. Ça c'est sûr. Mais il n'a pas ici cette vie spirituelle qui est la nôtre, cette capacité de chercher la vérité, de la contempler, de la saisir en pleine certitude, cette capacité de se donner jusqu'à l'extase, l'amour, et enfin cette mémoire ontologique dont je vous ai parlé ce matin. Ça va? Cette grande mémoire qui fait qu'en fait on est libre face à toutes les puissances de ténèbres, toutes les puissances de mort, quelles qu'elles soient, pas seulement les démoniaques, celles qui sont en nous, nos péchés, notre orgueil, tout ça. On est victorieux de tout. Voilà. Et donc, ici, on est en zone 4. Ici, lorsqu'on est capable de vivre en zone 4, c'est-à-dire ici, dans cette image de Dieu, c'est qu'on est lumière et vérité, c'est le point de vue de l'esprit. On est amour, affectivité, don, accueil, c'est le point de vue d'amour. Et enfin, on est énergie. On est une lumière vivante, on est dans notre vocation, dans notre mission d'éternité, dans la loi éternelle. Alors à ce moment-là, pas de problème, ici on est à l'image de Dieu qui effectivement est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça va? Si on allait tout à fait au fond de nous-mêmes, notamment par la médiation d'un mémoire ontologique, on verrait en effet que l'intimité profonde de notre être, eh bien, il y a comme cette présence de Dieu, pas seulement la trace de Dieu, mais la présence même de Dieu. Mais évidemment, ça, c'est un accès à c'est la mystique naturelle qui permet éventuellement, surnaturelle, qui permet éventuellement de rentrer en pleine connaissance, donc en pleine connaissance, en plein amour, en plein don. Et en pleine vitalité, vitalement, dans cette présence à l'intérieur, cette présence de Dieu qui est au fond de nous. Vous comprenez? Présence de Dieu, souvent, Dieu, bon, est autour de nous. Ou alors, voilà, là, vous avez, il y a aussi plusieurs conceptions de Dieu, regardez bien. Selon la maturité, il y a des gens qui disent, ah ben Dieu, il est là-haut. Il est là-haut. Hein? Il est là-haut. Non, on ne sait pas où. Derrière les étoiles, derrière les nuages, au ciel, quoi. Là-haut. Deus ex machina. C'est Voltaire qui avait cette conception. Bah, Dieu est là-haut, nous on est là. Bon, ben, il s'occupe de lui, moi je m'occupe de moi, et surtout qu'il ne s'occupe pas de moi. Il est là-haut. Mais il y a même des croyants qui pensent comme ça. Bah, Dieu est là-haut. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est des gens qui, au point de vue conception de Dieu, ils sont complètement en zone 1. Tu es complètement en dehors. C'est vrai. C'est vrai. Bon, il y a des gens pour qui le soma, hein, différentes conceptions de l'approche de Dieu. Alors, regardez vous-même, quand vous priez, vous mettez Dieu très loin là-haut. Ou bien, si c'est soma, en train de vous voyez, le soleil soma, c'est, ben, c'est Dieu. Voilà, ben, Dieu, c'est il est comme l'air qu'on respire, il rentre dans mon corps. Enfin, il y a une remarque, il y a quelque chose de vrai à hein, chaque fois, hein, bien sûr. Le corps, la périphérie, c'est vrai, la zone 1, c'est vrai, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5, les 5 zones sont vraies. Et pour ma propre personne, mais il est évident qu'il faut trouver Dieu là où il est profondément, au niveau de l'être, hein, pas sur le plan, pas dans son extériorité, ni dans sa vitalité. Bon, alors, voyez bien, si c'est au plan du corps que je m'approche de Dieu, enfin, à ce niveau-là, en zone 1, quelqu'un qui est complètement immature, si vous voulez, hein, il cherche uniquement à... qui est freudien, quoi, un bon freudien, et c'est bien dans sa peau, c'est tout. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bah, Dieu, ben voilà, c'est Dieu, il va me guérir. C'est le Dieu charismatique, si vous voulez, c'est le Dieu qui est visible, j'ai besoin d'une apparition, j'ai besoin d'avoir une photo miraculeuse, j'ai besoin d'un miracle. Pourquoi tout le monde a des miracles, moi j'en ai pas? C'est vraiment la religion de l'immaturité complète, hein, bon, mais sommaire, j'ai besoin de Dieu, qui, voilà, Dieu me guérit au niveau du corps. Vous voyez, il y a des gens qui vivent leur croyance uniquement là. Il faut un Dieu sensible, visible. Il faut un Dieu qui intervienne, quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Pourquoi il ne multiplie pas les pains? Pourquoi il multiplie... Vous comprenez ça? Bon. Ça, c'est... Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Ça veut dire que si notre centre de gravité est là, ah ben voilà, Dieu ne m'a pas aidé. Donc, je le laisse tomber. Il y a des gens comme ça. Donc, Dieu ne l'a pas aidé concrètement. Dans quelque chose de concret, de palpable. J'ai pas gagné au loto, donc Dieu, je m'en. Voilà, c'est très gros. Hein. C'est vrai, j'ai prié Dieu en disant j'étais dans une impasse, me fait attaquer par un gang dans un sous-quartier de New York, etc. Et puis je dis à Dieu, Dieu, sauve-moi, je suis sûr qu'il va me sauver. Et paf, je me suis fait en fait complètement tabasser. Dieu m'a pas aidé. Ah, alors là, ça c'est. Donc Dieu, non, si on veut. Il y a des gens qui vivent uniquement à ce niveau-là, pour le point de vue. C'est vrai. Bon, on est tous hein, un petit peu à vivre sur ces cinq plans. Mais. Bon, puisqu'on est dans la recherche de Dieu, vous voyez, il y a toutes les. Vous pouvez trouver des preuves de l'existence du Dieu qui est très loin là-haut, le Dieu architecte. Les francs-maçons croient à ce. Ils connaissent, c'est à cause de tous les symboles. À cause de tout, le Dieu architecte. Le Dieu architecte, celui qui est au-dessus de tout, qui fait marcher la grande mécanique. Voilà, ça c'est numéro un. Et puis, vous avez le Dieu ici, au niveau, le Dieu charismatique. Là, j'ai des miracles. Deuxième preuve de l'existence de Dieu, les miracles. Ah oui, il y a des miracles. Regardez Lourdes, tous les gens qui sont guéris à Lourdes. Hein? Et regardez les apparitions de Saint-Damiano. Hein? Et regardez les photos miraculeuses de l'Escorial. Hein? Et regardez la photo miraculeuse de Bernard. Hein? Et regardez-moi. Hein? alors, donc j'ai des preuves là. Voilà, c'est ça. Bon, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que c'est une preuve? C'est pas une preuve. Bien sûr, c'est intéressant. Ça nous réveille, si vous voulez. Sur le plan du corps, on a besoin d'être réveillé. C'est le corps qui dort. Donc, c'est bien qu'il y ait des miracles pour nous réveiller. Mais ça nous réveille. Mais ça n'est pas des preuves. Hein. Ça, c'est jamais une preuve. Le Saint-Suaire, par exemple, c'est intéressant sur le plan scientifique. Mais c'est très, très intéressant. Mais c'est pas une preuve. Il y a une preuve qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas une preuve de l'existence, ce n'est pas une preuve de la résurrection. Mais c'est vrai qu'il n'y a que l'explication de la résurrection qui peut expliquer de manière homogène tout le Saint-Suaire, d'accord. Mais peut-être qu'il y a une autre explication, qu'on ne connaît pas. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut toujours dire ça, évidemment. Mais enfin, ce cas-là, ça nous réveille, puisqu'on sait que il y a un ensemble de conversions. Mais voyez bien, au niveau de l'intériorité, on arrive au New Age ici. Alors Dieu, c'est toute cette lumière intérieure qui est en qui est partout, qui est en nous. C'est les énergies, c'est ce qui fait que d'un seul coup je me sens bien. Je découvre des horizons jusqu'en dehors du monde spatio-temporel. Formidable ça. Je découvre tout, vous voyez, le nouvel âge, le spiritisme, c'est là. Le spiritisme, c'est on est en zone 3. Le sentiment religieux. On a cette nostalgie. On a cette nostalgie d'un amour absolu, éternel, infini, du bien en soi, de la bonté perpétuelle. On a cette nostalgie de la lumière toute pure, immaculée. On a plein de nostalgie comme ça. On a une nostalgie de bonheur. On est assoiffé de béatitude, etc. On a plein de nostalgie en nous. Et on met ces nostalgies, on les respecte, ces nostalgies, et du coup on va vers elles. Et c'est ça Dieu. Dieu, c'est celui qui vient combler toutes mes soifs intérieures. Et voilà. Et si je m'arrête là, il est évident que finalement je vais rester à une spiritualité, pardon, ici, de l'âme, donc, à une spiritualité de l'intériorité. Mais c'est une intériorité de l'âme, hein. C'est une intériorité purement, ça reste. Alors regardez quelquefois, dis pourquoi tu dis que tu existes. Ben, tu existes parce que depuis que je crois, et ben je me sens bien. Depuis que je crois, je me sens. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé une certaine. Mais c'est pas. Vous voyez bien. Alors, une fois, je me rappelle, il y avait la télévision qui était venue à Rimont, et puis ils ont fait, je ne sais pas combien d'heures de prise. Et ils ont interrogé une vingtaine de frères. Et à chacun, donc, ils demandaient alors, pourquoi est-ce que vous êtes croyés, vous êtes moines et tout ça. Et puis il y a au moins la moitié des frères qui ne savaient pas, ils balbutiaient, ils ne savaient pas trop comment dire. Et moi, c'était la première fois que la télévision antenne devenait. Quand on n'est pas habitué, on n'est pas habitué, c'est certain. Alors déjà, quand tu expliques à un brave type dans la rue la question, s'il te pose la question pourquoi tu crois en Dieu, etc., il a beau être moine, le type, ça fait à peine 3 ou 4 ans qu'il est moine, hein, c'est un jeune moine. Alors, ben, ils ont presque tous dit, presque tous. Ils ont dit, ben voilà, je cherchais le bonheur, je cherchais à. Et voilà, il n'y a que Dieu qui pouvait me donner le bonheur et à être heureux, quoi. Et depuis que je suis avec Dieu, ben voilà, j'ai. Ben, je vais bien. Je suis bien. C'est zone ici. C'est quelqu'un commence à découvrir la vie intérieure, sa vie intérieure, qu'il a une vie intérieure, que s'il débloque sa vie intérieure des différents nœuds de la vie intérieure, il est noué intérieurement, il respire intérieurement. Voilà sa religion. Mais c'est lui alors. Pas Dieu ça. Peut-être que je peux obtenir le même résultat avec des thérapies, etc. Et justement, le New Age, c'est ça. Avec des petites thérapies de groupe, hein. Des petites thérapies de dynamique de groupe, etc. Bon, vous voyez bien. Pour sentir cette espèce d'état où l'intériorité peut naviguer à l'aise. Intérieurement, wow, je peux nager, ça, sans me mouiller les cheveux, sans problème. Là-dedans. Wow. C'est génial, non, mais c'est vrai. Bon, mais il y a des gens qui vivent, donc leur appréhension du divin, c'est, vous reconnaissez que ici c'est le point de vue donc de la providence qui suit. Providence de Dieu, Dieu est là, on a confiance. Et c'est déjà plus proche déjà, hein, il y a quelque chose de bien, parce que avoir une vie intérieure, c'est quand même mieux que d'être complètement en zone 1, complètement. Hein, complètement dans la tangente. Hein. Bon. Alors, ici, on rentre donc en zone 4. Donc, vous connaissez la zone 4. La zone 4, c'est quand vous arrivez à trouver en vous, en deçà de l'ego, en dessous du moi, moi, au plus profond, au centre, en dessous du moi, qui porte le moi, cette vie de l'esprit. Mon âme est spirituelle. Et donc, j'ai une puissance d'amour qui est la mienne, qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas celle de l'univers, c'est la mienne. J'ai une puissance d'amour, j'ai une puissance de vie contemplative, j'ai une puissance de lumière dans l'ordre du ton qui vient directement, qui est totalement immaculé, qui vient des mains de Dieu, vous voyez. Et c'est là que je vis, c'est là que je m'engloutis. Et il y a des gens, donc, bien sûr, c'est ce que nous allons essayer de faire, regarder là, chercher l'existence de Dieu et toucher en pleine certitude de notre intelligence contemplative l'existence de Dieu, c'est prospecter ici, au niveau de la partie spirituelle, de l'intelligence, en zone 4. Ça va? Et puis, le deuxième volet que nous faisons, que nous allons faire, c'est de regarder ici notre affectivité et notre mémoire blessée au niveau de la vie intérieure, qui fait qu'on est complètement noué, alourdi par un sentiment de culpabilité, et puis par des tas de phénomènes subconscients et inconscients qui fait qu'on est lourd, angoissé, etc. L'angoisse est ici. Bon, on va essayer d'essayer de regarder comment on peut sauter de la zone 3 à la zone 4, hein, par le point de vue donc de la lumière, et par le point de vue du pardon. Bon, mais ça, c'est les deux volets. Donc, vous voyez bien, ici, vous avez donc l'anthropologie structurelle, le petit résumé de notre structure humaine. Ça va? Bon, deuxième tableau, plus rapidement. Quand on dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est ça qu'on dit. Voilà l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu parce qu'il est un. Il a tous les éléments de la création en lui, l'aspect cosmique et matériel, l'aspect de la vitalité, l'aspect des énergies, l'aspect spirituel et Dieu lui-même. Et donc, il est à l'image de Dieu, il a les trois directions de Dieu, puisqu'il a les trois manières de se comporter, les trois personnes divines, en lui-même. Donc, il est à l'image de Dieu. Mais tout ça, c'est l'idéal. Donc, voilà mon idéal, ça c'est merveilleux. Mais, ça ne fonctionne pas, malheureusement, comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça à cause du péché. Le péché est intervenu, le mensonge a pénétré, le doute est venu percuter cette espèce de merveilleuse structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu d'avoir cette unité extraordinaire de ce monde du corps, de la vie intérieure, de l'esprit, cette présence de Dieu au milieu de tout qui énerve tout, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et je vais avoir, tac, le péché qui est intervenu. Alors attention, le péché originel, hein, mais aussi tous les péchés, le péché de Satan, les puissances intermédiaires, le péché collectif de l'humanité d'aujourd'hui, nos péchés personnels. À chaque fois, c'est un coup de marteau-piqueur qui vient faire vibrer toute la coque ici de notre humanité et faire que, exactement comme quand vous faites vibrer une coque, vous avez l'impression que en visuel, vous avez deux aspects. Hein? Vous avez, c'est stable, il n'y a qu'un. Puis vous faites vibrer, ça fait double. Et bien là, c'est pareil. Il va y avoir une percussion qui va se faire. Et toute cette harmonie qui est en nous, et bien, elle va se diviser en deux sur tous les aspects de nos puissances de vie. Alors, je vous rappelle. Vous vous en rappelez ou pas? C'est frais dans votre mémoire tout ça ou bien il faut que j'insiste? C'est pas frais dans votre mémoire. Bon, alors donc, insistons. Alors, le péché arrive ici. Il frappe. Regardez par exemple les démons, les tentations pour nous, par l'imagination. Les idéologies. C'est très frappant pour notre intelligence liée à notre imaginaire. Notre intelligence, normalement, elle n'est pas discursive. Notre intelligence, elle est contemplative. Je voulais expliquer ça. Hein? Notre intelligence native, celle qu'on va essayer de retrouver justement pour faire la démonstration de l'existence de Dieu, elle n'est pas discursive. Discursive, c'est le robot en nous. C'est que c'est, faut bien faire fonctionner les démonstrations, les réflexions, les critiques, le pour, le contre, le machin, le plein, les algorithmes et tout ça, les mathématiques et tout. Eh ben non, non, non. Mais si si le mensonge rentre en moi, le péché rentre en moi, à ce moment-là, l'imaginaire va commander mon intelligence. Au lieu que ce soit la réalité. La réalité, ça peut être moi, ça peut être un autre, ça peut être Dieu, ça peut être la nature. Au lieu que ce soit la réalité qui se présente à mon intelligence pour que je la contemple, le péché va faire que c'est mon imagination qui va commander mon intelligence. Alors à ce moment-là, je vais décoder cette espèce de truc. Et voilà, je décode. Et du coup, je rentre dans quelque chose d'intérieur. Vous voyez bien, c'est plus du tout ouvert, c'est plus du tout contemplatif. Et à ce moment-là, ça devient une intelligence discursive. Et du coup, il faut que j'analyse tout ça, il faut que j'arrive à comprendre, mais je ne comprends pas tout. Alors le doute intervient. Et le doute vient percuter, me percuter toutes les dimensions qui sont en moi et qu'on avait vues, le corps, l'intériorité, la partie spirituelle. Et comme le doute imaginaire ne peut plus pénétrer dans l'aspect donc de l'image de Dieu qui est en moi, il va déraper ici, vous voyez, c'est pour ça qu'il va déraper sur l'image de Dieu qui est en moi, sur l'aspect de la zone 4, hein. Il va déraper et il va me briser en deux, ici. Ce qu'on avait vu dans le premier tableau, c'était le point de vue de la mémoire ontologique. Il va me faire déraper en deux, il va me faire couper en deux cette connaissance de moi-même, mais de mon moi profond. Ce qu'on appelle anamnèse. Anamnèse, c'est que je reste lié en pleine vitalité, en pleine certitude, en pleine connaissance, à ce premier moment pour savoir qui je suis, quelle est ma vocation à l'amour éternel, ma mission, ma prédestination, et cet élan à quelque chose d'immaculé, qui est toujours au fond de moi, hein. Pour nous tous, hein. On l'a toujours, ça. Au fond de nous, il y a une espèce d'océan de feu, de vie, de lumière vivante, si vous voulez, qui me relie à ma fin, à ma finalité. Il y a un océan au fond de moi d'innocence, immaculée, et qui me donne un élan qui fait que je suis indestructible, que mon élan sera toujours victorieux. Victorieux, peut-être pas apparemment, mais au profondément, toujours. Et donc ici, je dérape, le doute me fait déraper, me fait perdre conscience de ce que je suis au niveau de cet océan immaculé, cet élan virginal, cet élan de lumière et de vie. Et du coup, l'anamnèse, elle reste là, elle reste possible, bien sûr, mais il y a une deuxième chose qui apparaît, c'est que j'oublie Dieu, j'oublie ce que je suis, j'oublie mes limites. Et voilà qu'il y a une opposition qui se fait dans ma mémoire ontologique, hein, et je rentre donc dans l'ignorance. Là, ici, l'oubli de Dieu et l'oubli des limites, l'oubli de Dieu va percuter l'aspect de mon humilité, qui est une humilité native, normale, naturelle. L'humilité, c'est quoi? Vous savez ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est d'être capable, en toute occasion, partout, où qu'on soit, de voir ce qu'on est en vérité. Donc, si effectivement je suis le roi fraternel du monde, ce que nous sommes tous dès que nous adorons, par exemple, et je dis je suis le roi fraternel du monde, c'est un acte d'humilité que je veux dire. Si j'adore plus, je suis l'esclave de toutes les puissances de ce monde. Alors là, c'est de l'humilité que de constater et de dire la chose. C'est pas celui qui dit je suis l'esclave, qui est humble. Il y a celui qui dit je suis vraiment nul, je suis lamentable, mais qui n'en pense pas un mot. Alors à ce moment-là, il n'est pas humble. Bon. Et peut-être que ça correspond pas à la vérité, n'est-ce pas? Donc l'humilité, c'est la vérité. Bon, cette humilité-là, l'oubli de Dieu va faire, et l'oubli de mes limites, va provoquer en moi l'orgueil. Et donc ici, au niveau de cette mémoire ontologique, au niveau simplement de la relation entre mon cœur et ma volonté d'amour et mon intelligence, cette relation va se fissurer, et je vais avoir à la fois l'humilité et à la fois l'orgueil qui vont se battre en moi. Vous voyez bien que l'humilité, il n'y a pas que de l'humilité en nous. Ça, vous n'avez pas besoin de vous le dire. On se bagarre tout le temps. Il y a une dialectique qui se fait, c'est-à-dire une espèce de lutte, hein, tout le temps dans toutes nos puissances. C'est à cause de ça, du reste, que va apparaître en moi un sentiment de découragement, de désespoir. Très bien. Bon, à partir du moment où je regarde ici, l'oubli de mes limites, j'oublie mes limites, ici ça va percuter l'aspect de ma perception du réel, voyez, mon sens du réel qui est natif, hein. Je suis contemplatif de nature, j'ai le gros bon sens, quoi. Mais on ne peut pas se tromper avec le bon sens. Et pourtant, avec cet oubli de nos limites, je vais idéaliser le monde, idéaliser la nature, idéaliser telle ou telle personne, m'idéaliser moi-même, me dire, mais là, oui, là, tu seras bien si tu... Je sais pas, voyez bien. Donc, vous rentrez dans toute une espèce d'idéalisation. Vous vous idéalisez. Au lieu d'être réaliste, vous idéalisez. Et vous commencez à rentrer dans l'illusion. Donc, votre sagesse contemplative se divise avec l'idéologie ou l'idéalisation ou le rêve. Ça, c'est les trois stades. Le rêve, c'est le pire, n'est-ce pas? Et puis sinon, il y a quand même au fond de vous toujours cette possibilité de retrouver le sens du réel. Ça va? Ici, l'illusion et l'idéalisme vont immédiatement diviser toute votre vie d'amour, toute votre vie affective. Bon, dès que vous avez tombé amoureux de quelqu'un, vous avez un sentiment d'amour pour quelqu'un, votre père, votre mère, votre enfant, etc., n'importe qui, votre ami. Alors, à ce moment-là, à cause de cette espèce d'idéalisation, vous avez tellement phosphoré dans votre tête, n'est-ce pas? Vous êtes dit, mais, oui, je l'aime, n'est-ce pas? Mais c'est pas réel du tout. Jésus, il reprend souvent hein, là-dessus. Hein. Jésus, il attaque l'évangile très souvent, Jésus attaque là-dessus. Hein. Non, c'est pas celui qui dit j'aime, c'est les actes. Hein. Alors, voyez bien. Alors, à ce moment-là, ça se percute ici. Au niveau des quatre puissances de l'affectivité. Les quatre puissances de l'affectivité sont le point de vue du concupiscible. Le concupiscible, c'est pour faire que notre amour, le concupiscible c'est ici, c'est là où vous avez convoitise désir. Le concupiscible, c'est de faire que vous avez un désir d'amour qui ne s'arrête pas. Vous avez cette soif d'amour, le concupiscible. Vous êtes attiré par un amour. Ça va? Alors, ici, l'idéalisation va faire que ce désir ne sera plus pur du tout. Il va falloir que cet amour corresponde à votre rêve, pas à la réalité. Et du coup, ça va devenir une concupiscence. Ah, vous le voulez, c'est tout. Vous voulez cet amour-là. Mais comme c'est une idéalisation, c'est un amour qui s'est complètement mis à votre mesure. L'amour n'est pas à notre mesure. Et donc, au lieu d'aimer, ce n'est pas l'autre qui sera premier, ce sera mon idéal. Donc ce sera moi qui serai premier, et donc mon concupiscible me divise en convoitise pour chercher des compensations et le désir. Mon irascible, ça sert à quoi? Ça sert à ce que mon amour soit toujours vigoureux, qu'il y ait toujours cette force de conquête pour se dépasser tout le temps, pour faire que ce soit jamais moi, de sortir toujours de moi, et que ce soit toujours donc l'autre, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, la percussion de l'illusion et l'idéalisme font que cette force de vie va s'accompagner de la peur, parce que tu dis, oh, et si, ça correspond pas, la réalité correspond pas à mon, enfin, c'est pas mon idéal. Alors, tu as peur que ton idéal se fasse pas. Quand tu aimes, tu te fiches pas mal de ton idéal. Quand tu es contemplatif, tu te fiches pas mal de ton idéal. Mais quand tu n'es pas contemplatif, voilà, ton idéal ne se réalise pas. T'as peur que, bon, je sais pas, si t'es amoureux, t'as peur qu'elle te dise pas ce que tu voulais, quoi. Tu pensais qu'elle te... Tu l'aimes tellement, donc forcément elle t'aime aussi. Tu es amoureux fou, donc forcément elle est amoureuse de toi. Voilà ton idéalisation. Puis tu la rencontres et puis tu lui dis, je suis amoureux de toi, ma chérie. Tu reçois une paire de baffes en disant, moi j'en ai rien à foutre. Alors tu as peur de ça. Tu as été pourtant conquérant, tu as été courageux, tu as eu une force de vie, tu as été là, tu as dit ton... Et puis pouf, vous voyez. Alors, ça c'est parce que tu es... on a cette habitude, si vous voulez, que le mensonge m'a fait oublier mes limites, m'a fait oublier que c'est Dieu, si vous voulez, que c'est l'amour. Du coup, je rentre dans l'illusion, l'idéalisme, le coup au fond de Dieu et de moi-même, et aussi de l'autre, et sans du réel. Et du coup, j'ai peur, forcément, que mon sentiment, et j'ai raison d'avoir peur, parce qu'effectivement, je suis complètement en dehors de mes pompes du point de vue de l'amour, vous êtes d'accord. Donc mon irascible va diviser en deux. Il va y avoir la peur, puis il va y avoir cette force de vie qui continue. C'est pas parce que j'ai reçu une baffe que du coup je lâche le morceau. Je continue à croire à le concupiscible et l'irascible. Les animaux ont ces puissances d'affectivité, vous savez. Donc ça, je n'ai pas besoin d'être un homme pour ça. Bon, mais au niveau maintenant spirituel, au niveau de l'affectivité, ça veut dire au niveau sentimental. Au niveau sentimental, quelquefois, les animaux ont des opérations sentimentales. Au niveau sentimental, bon, alors au lieu d'être attaché à l'autre, je vais toujours faire attention d'être détaché de l'autre, pas être trop blessé. N'est-ce pas? Alors, cette bagarre entre l'attachement et le détachement. Et au niveau spirituel, l'affectivité. Au niveau de l'affectivité sensible, alors justement, c'est ce qu'on va regarder, hein, au niveau de l'affectivité psycho-spirituelle, alors à ce moment-là, au lieu d'être dépendant de l'autre, parce que dès que vous êtes dans l'amour, vous dépendez de l'autre, c'est l'autre qui commande tout de votre vie, vous lui avez tout donné, donc c'est l'autre qui commande toute votre vie. Vulnérabilité, vous voyez bien, vulnérabilité, c'est le fait que quand plus vous aimez, plus vous êtes sensible, plus vous êtes vulnérable. Est-ce que vous voyez ça? Alors à partir du moment où il y a le mensonge qui vous divise en vous-même, alors il va y avoir un phénomène très curieux, c'est que vous allez avoir cette vulnérabilité, elle continue, vous devenez toujours plus sensible, plus tu es, plus tu es sensible. Si quelqu'un ne t'aime pas, qui t'insulte, je vais dire, tu t'en fiches. Ça passe sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais si c'est quelqu'un que tu adores vraiment, autant te donner 5 coups de couteau, tu aurais préféré, c'est évident. Hein? Tu es d'accord avec moi? Et c'est ce que fait la vulnérabilité. La vulnérabilité me pousse, me rend plus fragile, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, tu vois, le processus de la vulnérabilité, me rend beaucoup plus fragile, et du coup j'ai encore plus peur, du coup j'ai encore plus le désir de ne pas souffrir et de rentrer dans un monde d'illusion et d'idéalisme qui fait que la souffrance sera évacuée, je n'en ai pas, et du coup, je vais me réenfermer dans mon illusion, mon rêve, et du coup, rentrer dans une dépendance par rapport à mon rêve. Oh là, vous voyez comme c'est compliqué. Mais c'est facile à comprendre, hein, que, du coup, c'est des choses très simples, ça, que tout le monde comprend, parce que c'est du quotidien, ça. Bon. En tout cas, ça, dépendance et vulnérabilité sont des choses positives, vous le sentez bien. Parce que l'amour, vous dépendez de l'autre. Vulnérabilité, vous êtes capable de souffrir par amour. Et vous n'avez pas peur de ça. Et à côté de ça, qui vient lutter contre ça, vous désirez perdre cette dépendance par rapport à l'autre pour être indépendant par rapport à lui. Alors comme ça, on est tous les deux ensemble, mais indépendants. Voilà ton affaire, ça c'est la mienne. Voilà ton truc, ton domaine, ça c'est le mien. Et on est indépendant. Alors, grâce à l'indépendance, on finit par accepter un phénomène d'endurcissement et d'isolement. Bon. Alors, et de volonté de puissance. Mais l'endurcissement, ce qu'on va voir justement tout de suite, parce que c'est le but de cet après-midi, là. C'est pas possible. Cet endurcissement va provoquer, c'est ce qu'on verra donc la prochaine fois, va provoquer ici, au niveau de ma mémoire ontologique, un autre phénomène, c'est que, au lieu que je découvre dans l'autre cette source d'amour infini, presque, dont j'ai besoin pour m'abreuver et faire que le feu ardent de mon amour soit lui-même un feu ardent inextinguible, bon, va se doubler du phénomène de l'isolement. Parce que plus je m'endurcis ici, par l'affectivité, plus je vais m'isoler du côté de ma propre autonomie intérieure. Et ce phénomène d'isolement va me faire rendre de plus en plus égoïste, au lieu que normalement, je reste profondément altruiste. Vous voyez, donc altérité et isolement égocentrisme vont également se bagarrer en moi du point de vue de ces forces vives de soif, de lumière et d'unité de vie. Ça va? Donc, que ce soit au niveau de l'intelligence, sagesse, il va y avoir un combat. Au niveau de l'imaginaire et de mon intelligence discursive, il va y avoir un combat entre la vérité et le doute. Au niveau de ma mémoire ontologique, il va y avoir une lutte dialectique. Et donc je suis divisé dans toutes mes puissances. Au niveau du concupiscible, il y a un combat entre la concupiscence et le désir d'amour. Au niveau de l'irascible, il y a un combat entre cette force de conquête pour que l'amour soit toujours victorieux et la peur. Bon. Au niveau de l'affectivité sensible, il y a une force, toujours une force d'assumer, de s'abreuver, même si on est encore plus sensible, de ne pas avoir peur de la souffrance, de dépendre de l'autre, même si on doit en baver. Bon. Et donc d'accepter la mort par amour, c'est ça l'extase. Mais ça va se bagarrer contre cet endurcissement, cette indépendance, parce qu'on souffre trop. Et enfin, au niveau de la mémoire ontologique, cette oblativité, ce sens de l'autre, cet altruisme, va se bagarrer avec moi, avec cette espèce d'isolement, cet isolement psycho-spirituel, et qui fait de moi quelqu'un très égoïste. Mais à la racine de tout ça, et c'est ça qui est très intéressant, à la racine de tout ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a le péché. Et le premier à être percuté, c'est ma mémoire ontologique qui fait que j'oublie ce que je suis, anamnèse, j'oublie mes limites et j'oublie Dieu qui est au fond de moi. Vous voyez, c'est tout des dérapages qui prennent la tangente par rapport à l'image de soi. Voilà ce tableau-là, et il me reste juste 5 minutes pour faire le tableau suivant. Alors ça, si vous voulez, l'image de Dieu, c'est-à-dire ça, c'est comme ça qu'on est sorti des mains de Dieu et qu'on devrait être de plus en plus dans l'unité. Mais malheureusement, toute cette merveilleuse, on est divisé dans toutes les dimensions correspondantes. On aurait pu en mettre bien d'autres. Hein. C'est juste des exemples. Pour montrer qu'on est divisé dans toutes nos directions affectives, intellectuelles, imaginatives, psychologiques, mémoire, ontologique, être profond, sentiment et odeur, énergie, tout ça, on est... Et c'est pas normal. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas normal. Hein. C'est pas naturel. Hein. Ça vient du péché. C'est pas voulu par la nature de créatrice de Dieu. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu ne veut pas de ça. Et donc dire, mais non, voilà, je suis comme ça, donc c'est normal. Tout le monde est comme ça. C'est un processus qui est comme pour tout le monde. Donc c'est normal, c'est la nature qui veut ça, qu'on soit dans la lutte à tous ces niveaux-là. Oui, non, c'est pas normal, justement, c'est pas normal. Alors Freud, il va dire justement, oui, c'est normal. Hein. Et donc si tu accentues ces divisions du côté de... Si tu dis au gosse, va vers l'altruité, vers l'altruisme, ne va pas vers l'égoïsme, il va dire, mais ces gens-là ne respectent pas la nature. Il faut savoir être égoïste, il faut savoir prendre son plaisir, etc. Vous comprenez? Mais donc Freud, lui, il oublie un truc, par exemple, c'est que, vous voyez, c'est un exemple tout simple comme celui-là, c'est que ça, c'est pas naturel. Hein. C'est le fruit d'une dégradation, d'une brisure, d'une fêlure. Et qui s'accentue avec le péché, avec les gens qui ne vivent, s'éloignent encore plus de Dieu. L'origine, c'est évidemment le péché, c'est la séparation de Dieu. Et on constate que ces luttes-là sont de plus en plus étonnantes à mesure que le péché devient de plus en plus personnel. Bon. Alors, le troisième tableau, c'est cette image de Dieu qui était le premier tableau de la structure, de l'anthropologie structurelle. Vous êtes image de Dieu, hein, premièrement. Deuxièmement, vous êtes du coup un être de désir, d'amour, de lumière et de vie. Quasi infini, absolu, n'est-ce pas? Au centre de vous-même, n'est-ce pas? Voilà les trois aspects, ils sont là. Et d'un seul coup, le choix vous tombe dessus. Vous choisissez donc cet amour, et boum, paf, vous recevez un événement ou de mensonge, ou de non-amour, ou de dysfonction, de percussion par rapport à quelque chose qui est contraire de mort, maladie, contraire à la vie, si vous voulez. Et ça vous percute là dans votre élan, qui devrait vous amener, avec le temps, à être de plus en plus un tourbillon qui va jusqu'à la sainteté. Continuellement, de plus en plus amour, de plus en plus contemplatif, de plus en plus ce feu ardent qui cesse de se développer jusqu'aux confins des éléments cosmiques même. Bon, et paf, d'un seul coup, vous choisissez cet amour, mais vous êtes percuté par le non-amour, par le mensonge, vous êtes percuté par la mort, la maladie, enfin tout ce qui est anti-vie,
et paf, hein, tac, et du coup, troisièmement, vous devenez un être blessé. Ce qu'on vient de regarder dans le tableau numéro 2, d'être blessé, tac, il y a une césure qui se fait, une dialectique intérieure dans toutes vos puissances, et en même temps, votre dynamique de vie humaine, votre vie, votre genèse, votre histoire, de l'âge de 1, 2, 3, 5, 10, 100, etc., progressivement, il va y avoir une, profondément, il y a cet élan, je vous l'ai déjà expliqué, demeure profondément, mais il y a une déperdition au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos actes, au niveau de l'extériorité, et du coup, vous oubliez, vous finissez par oublier. Du coup, vous êtes obligé de rentrer dans le monde psychologique, hein, parce que si vous oubliez que vous êtes cette espèce de saint au fond de vous, cet océan immaculé possible de sainteté, vous rentrez dans le monde, dans le point de vue de la zone 3 ou de la zone 2, c'est-à-dire dans le point de vue psychologique. Vous êtes d'accord? Et du coup, ici, au point de vue psychologique, vous cherchez immédiatement le point de vue de quelqu'un qui est très psychique, qui est très impulsif. Il a une idée, tout de suite, il faut qu'il y aille. C'est l'impulsivité, si vous voulez. Il faut tout de suite son truc, c'est le capricieux. Donc, c'est l'immédiatité. Vous êtes indépendant. C'est vos propres réactions, primo, primi. Donc, primo, ce que vous avez en premier, il faut que ce soit premier, primo, primi. Il faut que ce soit réalisé en premier. Ça, c'est très psychologique, ça. Très, très psychologique. Alors du coup, vous n'êtes plus au niveau de votre être profond, mais vous vous concentrez sur le point de vue de l'avoir. Et c'est le fait d'avoir le maximum de choses. Vous n'avez pas ce bonheur. Vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas votre enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Il y a des gens qui sont comme ça, des femmes qui sont comme ça. J'ai pas d'enfant. L'avoir. L'homme est un avoir. Alors il faut compenser, compenser, compenser. Et au lieu d'être être, je rentre au niveau de l'avoir. Alors à ce moment-là, c'est la convoitise et j'ai une relation captative. Tout ça, c'est originé par cette souffrance de la blessure. Alors là, je parle d'une seule blessure, mais ces blessures viennent vous percuter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, de la naissance, même déjà avant la naissance. Tout le temps, tout le temps. Et donc ça s'accentue. Et donc vous rentrez dans un monde psychologique d'angoisse. Donc quelqu'un qui ne sait pas vivre au plan spirituel, il n'y a que ça. Mais il faut quand même aller, laisser aller cette angoisse jusqu'au bout, jusqu'à comprendre cette culpabilité, se sentir coupable d'être un pauvre type. Finalement que... Alors à ce moment-là, aller même toucher jusqu'au désespoir. Et une fois qu'on a touché au désespoir, on touche le fond de l'angoisse. Et lorsque l'homme constate que sur le plan psychologique, il est effectivement un homme perdu, alors à ce moment-là, c'est possible pour lui de retrouver le chemin de la vie spirituelle. Mais quelqu'un qui refuse d'assumer ici cette division, de rentrer en elle, de la prendre, de passer à travers elle, et d'exprimer son dessein, sa culpabilité, d'exprimer son angoisse, de rentrer dans, de donner une signification, de rentrer dans cette perte de lui-même pour retrouver par le renouvellement du baptême, si vous voulez, le Christ, son sauveur. À ce moment-là, eh bien, s'il ne va pas jusque-là, il ne peut pas retrouver le sauveur qui peut le remettre dans cette dynamique. Il rentre dans une dynamique non plus d'avoir, mais il devient un être de résurrection, c'est un être pascal. À ce moment-là, il retrouve la ressemblance de Dieu et il rentre à nouveau donc, dans le point de vue donc, spirituel. Donc vous êtes d'accord, ici, à ce moment-là, il peut rentrer dans le don de soi à nouveau et retrouver le point de vue de l'extase et être transfiguré dans le Christ. Voilà en gros ce tableau. Ce tableau est simplement pour faire comprendre une seule chose, c'est que cette division qui est en nous, il faut l'accepter, il faut voir qu'elle n'est pas normale, mais il faut quand même l'accepter. Accepter que c'est bien nous qui sommes rentrés là-dedans, qu'il y a au fond de nous toujours cette présence de Dieu, et qu'il y a dans les blessures cette possibilité extraordinaire d'être repris par le Sauveur pour rentrer dans une sainteté beaucoup plus grande que celle qu'on aurait eue si on n'avait pas été blessé. Ça va? Voilà. Et à ce moment-là, on finit par accepter cette souffrance, cette angoisse qui est la nôtre, cette division qui est la nôtre. Bon. Alors, voyez bien. Et donc le but de toute cette espèce de petite introduction que je vous ai faite avec ces trois premiers tableaux, le but c'est de comprendre ici la différence entre le sentiment de culpabilité et la conscience de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité. Vous voyez que c'est dans un processus interne qui est finalement pas si simple que ça à expliquer. Alors simplement, je voudrais simplement, comme ça j'aurais pas à le faire tout à l'heure, enfin la prochaine fois, dans l'image de Dieu qui est en nous, anthropologie structurelle, on ne regarde le processus de division que dans cette partie d'amour qui est là. La partie d'amour en nous. Je ne regarde pas les perturbations sur le plan de notre vie imaginative ou contemplative ou intellectuelle ou rationnelle ou de lucidité ou de transparence, ni dans la partie de l'oubli de ce que je suis, cette fait que je me ramasse dans le point de vue de l'inconscient, du subconscient, des blessures, etc. Mais je regarde uniquement l'aspect de l'amour et de l'affectivité qui est en moi. Cette affectivité, elle est perturbée sur le plan du concupiscible, de l'irascible. Mais je ne regarde ici dans ce tableau qu'un seul aspect, c'est la division dans l'ordre de l'affectivité sensible, psycho-spirituelle qui est là. Autrement dit, je regarde la division qui s'est faite ici, dans le pointillé qui est là, l'affectivité psycho-spirituelle, la frontière entre le point de vue spirituel et psychologique. Donc notre intériorité psychologique d'amour et notre soif d'amour vrai. Ici, ça c'est perturbé, et ces perturbations, cet ensemble de divisions qui sont là, le processus est représenté dans ce tableau. Voyez ? Alors, donc c'est vraiment un aspect de la division qui est en nous. Ça va ? C'est tout, faut surtout pas dire, tout est là, j'ai tout compris. Mais non, c'est déjà pas mal de comprendre ça. C'est un aspect, c'est un des sept grands aspects. Puisque vous savez bien qu'il y a sept grandes erreurs idéologiques. Bon, c'est pour ça qu'on garde cet aspect-là. Bon, alors ici je reprends, au moins pour expliquer en gros. En gros, le tableau s'appelle « Réaction aux blessures psycho-affectives et chemin de guérison ». Il y a, en fait, à chaque fois, vous remarquez que je dis toujours exactement la même chose avec des tableaux différents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Bon. Mais justement, il faut expliquer toujours à chaque fois sur plusieurs prismes avant d'arriver à saisir le truc. Bon. Vous comprenez bien que ici, normalement, je suis fabriqué avec l'amour surnaturel de Dieu, l'amour agapé, et qui fait que je suis un être de dynamique d'amour quasi infini, une soif d'amour inébranlable, absolue, et une force d'amour en moi qui est inébranlable, même si elle finit par être cachée et amortie, si vous voulez, mais si je rebrise la coque, c'est à nouveau la fission nucléaire. Bon, alors l'amour est en moi, cet amour est en moi très très fort. Et du coup, il irrigue en moi donc tout le point de vue psycho-spirituel qui est ici et qui est exprimé dans cette colonne grise, hein, qui en réalité dans le tableau photocopié en couleur verte, mais vous ne pouvez pas le savoir. Non, c'est pas grave. Alors, c'est grise. Alors, et puis, elle irrigue en moi donc les puissances d'affectivité, le concupiscible et l'irascible. L'irascible, c'est l'amour combatif, toujours conquérant, le concupiscible. C'est cette soif d'amour, ce désir d'aimer qui est toujours là. Ça va? Bon, l'amour est en moi. Mais, tac, un événement arrive. De l'amour vient, plaf, me percuter. Regardez, je viens de naître. Moi, j'avais un frère jumeau, par exemple. Bon, nous sommes nés tous les deux. Je suis né. Et puis, mon frère, forcément, il fallait qu'il boive le lait de ma mère et moi aussi. Mais seulement, il n'y avait qu'une mère pour deux. Remarque, c'est peut-être pour ça que la nature a prévu deux mamelles à la mère, je ne sais pas. Mais elle ne pouvait pas donner le. Il faut avoir vraiment être une africaine pour pouvoir donner le lait à deux enfants en même temps. Ma mère savait pas faire. Alors mon frère, lui, il était doux, il n'était pas agressif. Moi, j'étais très agressif. Alors, je buvais, je hurlais jusqu'à ce que ma mère me mettait sur son sein. Et si bien quand mon frère arrivait, il n'y avait plus de lait. Alors mon frère, vous comprenez bien, voilà, et il pense avoir l'affection de sa mère qui est aimée pour lui, vous comprenez? Et puis, dès le départ, il y a un événement de son frère jumeau qui lui prend son lait, sa mère, etc. Bon, vous vous rendez compte, c'est fou ça. Bon, en fait, il est très bien, mon frère, ça ne l'a pas perturbé pour autant, pas trop, je crois. Moi, j'étais perturbé, mais pas lui. Alors, donc, vous voyez, ici, un phénomène de non-amour. Le phénomène de non-amour, comme vous le voyez ici, nous retrouvons le tableau, vient percuter l'irascible. L'irascible, au lieu d'être au service de l'amour en moi et faire que mon choix s'approfondisse d'une manière... Le fameux pont qui était tout à l'heure horizontal s'approfondisse jusqu'à la sainteté, va percuter l'irascible, percuter le concupiscible, le diviser en deux. C'est ce que nous avions tout à l'heure. L'irascible, là, arrive la force de conquête et la peur. Vous vous rappelez? C'est ça. L'irascible est divisé en force de vie et peur. Et ici, effectivement, il y a une division qui se fait en moi. Et au niveau du concupiscible, eh bien, mon désir d'amour, tout pur, éternel, etc., se divise et se bagarre avec le point de vue de la convoitise. Vous voyez bien, on a exactement la même chose sous un tableau différent. Mais là, ici, apparaît une nouvelle dynamique. C'est un peu comme si poussait la roue. Et à ce moment-là, il y a un truc, les blessures enclenchent un truc à trois roues en fait. Première roue, la roue de l'endurcissement. Deuxième roue, la roue de l'isolement. Troisième roue, la roue de la vulnérabilité. Il y a trois roues qui s'enclenchent dans mon affectivité et je suis comme ça. C'est extraordinaire ça comme phénomène. Effectivement, la peur à cause de l'irascible blessé et la convoitise à cause du concupiscible blessé engendrent un espèce de d'arc électrique, si vous voulez, au niveau de l'affectivité, et fait marcher la roue et fait que cette blessure se transforme en moi en sentiment et en réelle souffrance, une souffrance qui finalement n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, si j'ai un nouvel événement de non-amour qui vient combattre, la roue se redynamise et à ce moment-là, apparaît le sentiment de culpabilité. Il faut savoir, c'est ce qu'on verra justement demain, après-demain, que le sentiment de culpabilité commence à se former déjà avant la naissance. Le sentiment de culpabilité, déjà avant la naissance, commence à se former. Et à l'âge de 3 ans, il est complètement formé. Le sentiment de culpabilité, il se forme jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, faut faire très attention hein, à ce phénomène. Donc, justement, il faudra que je vous explique un petit peu ça. Que, justement, c'est très important pour comprendre les degrés de responsabilité. Qu'est-ce que c'est exactement que la faute? Qu'est-ce que c'est exactement que le péché? Est-ce qu'il y a, quelle est la différence entre la transgression, la faute et le péché? Et on va regarder ça. Et justement, c'est très très important pour pouvoir retrouver la santé. Alors ici, en tout cas, vous avez une chose très importante, c'est que de non-amour en non-amour, de gifle en gifle, de trahison en trahison, du côté de l'amour, d'échec en échec, du point de vue de l'amour, de souffrance, de non-amour en non-amour, et bien finalement, petit à petit, ce sentiment de culpabilité se transforme en angoisse. Du coup, pour vous défendre, vous devenez agressif. Du coup, il y a une espèce de haine qui apparaît en vous, d'amertume, de désespérance. La désespoir vous donne peur d'avoir vous devenez parano, quoi. Vous avez peur que ça se renouvelle. La peur engendre ce fait que vous essayez de garder ce que vous avez déjà. Alors, c'est l'avoir, au lieu de ce que ce soit l'être. Et du coup, vous captez ce que vous avez déjà, convoitez, et ça réenclenche, sans arrêt. Ça y est, vous êtes parti, et vous vous endurcissez du point de vue du cœur. Et si vous ne faites pas très attention, c'est-à-dire si vous ne retournez pas à la source de l'amour, pour recroire à l'amour, pour malgré ça, alors à ce moment-là, vous allez plus loin, l'angoisse tombe en conscience de culpabilité, et pour éviter
ce poids beaucoup trop lourd du sentiment de culpabilité, et au bout d'un certain temps, ce fait que cette haine, ce désespoir et cette peur qui tout le temps vous avez, vous ne pouvez pas vivre tout le temps avec ça en face de vous, alors il faut que vous l'oubliez. Et pour l'oublier, vous allez rentrer dans une affectivité infantile, vous allez faire l'idiot. Regardez les mecs qui sont alarmés, ils hurlent. C'est étonnant, c'est le phénomène de collectivité, le phénomène collectif engendre beaucoup ça. Parce que face à l'autre, on dit mais t'es un con, c'est alarmé, c'est ça. Ils sortent de la famille, on les a un peu mis dans des cocons, et puis ils rentrent à l'armée. Et puis à l'armée, on leur dit quand même, dis donc, mais ça va pas, non, oh. Alors le type, il a son miroir, il peut pas vivre avec cette haine, cette amertume, cette tristesse, cette désespérance, cette peur. Alors il rentre dans un phénomène d'infantilisme, il régresse. Il y a un phénomène de régression, il hurle, il finit pire qu'une bête. Il se tombe dans la bêtise la plus incroyable. Mais c'est un phénomène d'infantilisme. Et du coup, vous rentrez dans une expérience fusionnelle. Alors, vous cherchez un leader. Il faut, à l'armée, il y a un mec qui est leader des autres. Alors, hop, tu te planques derrière lui. C'est ça. C'est un phénomène très curieux. Et du coup, tu rentres. C'est plus toi qui vis. Tu rentres dans une dépendance aliénante. Tu perds ton identité. Et du coup, profondément, qu'est-ce qu'il y a? Un sentiment de frustration qui fait que, profondément, finalement, tu as une jalousie par rapport à... Et du coup, la haine est réactivée, et les deux circuits, à nouveau, se réactivent au carré, n'est-ce pas? Bon, donc voilà le deuxième effet, n'est-ce pas, de la blessure. Le troisième effet est positif, c'est que, face au sentiment et à la conscience de culpabilité, je sais quand même que si je suis encore... Dieu donne toujours des grâces, même si je ne sais pas ce que c'est Dieu, de continuer d'aimer, allez, de pardonner, d'oublier ça, allez, hop, on reprend, de croire à nouveau, enfin d'espérer enfin, quoi, tout le temps. Je ne vais pas tout le temps désespérer. Non, allez, hop, on se remet debout, on va retravailler, on y va, on s'y remet. Bon, alors à ce moment-là, heureusement qu'il y a ça, n'est-ce pas? Parce que. Mais alors, il faut voir, alors souvent, le cercle de la vulnérabilité, c'est pour ça que le cercle de la vulnérabilité est toujours là. Heureusement, au moins un peu. Mais celui de l'altérité ne se reprend pas, parce que là, vraiment, il faut vraiment recevoir le pardon. Si on n'a jamais reçu le pardon, on ne peut pas vraiment réenclencher ici ce processus de l'image à la ressemblance, qui est un phénomène d'aspiration. Il faut pouvoir trouver en Dieu le pardon et recevoir le pardon reçu. Alors, à ce moment-là, toutes ces défaillances qui sont ignobles, qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 15 avec l'angoisse, bon, eh bien, vont pouvoir être utilisées, comme le charbon peut être utilisé pour brûler de manière incandescente, chauffer, etc., la maison, vont être utilisées dans des saintetés qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas eu ces défaillances et qui sont ici. Zèle spirituel, désir de Dieu, pardon donné, offrande, louange, amour agapé, paix, joie, plénitude, identité nouvelle, enfant spirituel, communion, etc. Vous voyez, bon, tout ça, dans l'aspect spirituel de l'amour qui peut apparaître et qui est là. Bon, mais de toute façon, on va le reprendre, ça, ne vous inquiétez pas. On le reprendra, puisque c'est de là qu'on va partir, sentiment de culpabilité, conscience de culpabilité, pour entrer dans un autre tableau qui va reprendre ce phénomène du sentiment de culpabilité et de la conscience de culpabilité sur le plan ici de la relation avec la mémoire ontologique. Vous voyez? Bon, vous me direz, tout ça c'est des vocabulaires c'est des mots qu'on connaît quand même, hein? C'est des mots qu'on connaît. Mais bon, même si on ne comprend pas tout, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est de l'avoir vu au moins une fois, et puis comme ça, après, quand l'heure vient, on se détend.